S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Ans, c'est la moyenne d'âge des chefs de gouvernement qui négocient en ce moment au Bourget pour la COP21.
Pourtant, le réchauffement climatique, c'est une thématique d'avenir. Les jeunes sont donc grandement concernés.
Notamment les étudiants, qu'on entend finalement peu dans les négociations et dans les médias.
Nous, Manon et Laure, sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants de nos cursus, en architecture et en environnement.
Des secteurs concernés par les thématiques de la COP21.
Moi, c'est Aurélie Berthaud, je suis en bac plus 5. Donc là, je viens de finir mes études d'architecture, mais je fais un stage actuellement en agence d'urbanisme. J'ai 24 ans.
Pauline Texier, j'ai 23 ans, je suis étudiante en architecture, en master 1.
Yann Dodwig, j'ai 23 ans et je suis en dernière année d'architecture, donc bac plus 5.
Camille Laprès, 23 ans, première année de master en architecture.
Donc je m'appelle Claire, j'ai 22 ans. Et je suis une formation en fait en écologie, mais pas en écologie politique comme on peut y penser, mais vraiment dans tout ce qui est études des écosystèmes, leur fonctionnement, et vraiment dans leur fonctionnement, les échanges de matières et aussi la dynamique de population. Donc pas forcément tout ce qui est réchauffement climatique et problématique de CO2.
Ouais, c'est Laure. J'ai 22 ans. Je suis étudiante dans un master qui s'appelle Pollution chimique et gestion environnementale à l'Université Paris-Sud.
Alors, j'ai 22 ans et je suis étudiante en géosciences à la faculté Paris-Sud, donc Paris-Sud 11. Voilà, donc troisième année de géosciences, donc la géologie, voilà.
Pour vous, c'est quoi la COP21?
Pour toi, la COP21, qu'est-ce que c'est?
C'est un regroupement de politiciens qui sont peut-être remplis de bonne volonté, mais aussi un peu réticents. Je pense que c'est nécessaire, mais que ça va peut-être foirer. Mais au moins, ça va faire changer les mentalités, et c'est en faisant changer les mentalités, en parlant que des petits changements vont pouvoir avancer, en fait, vont pouvoir être faits.
Alors, la COP21, pour moi, alors je veux pas me tromper, donc pour moi, c'est une réunion au sommet de grands dirigeants pour parler du climat. Après, est-ce que c'est sérieux? Sérieux au sens où est-ce que ça va changer les choses? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait et qui se fait actuellement, donc on verra bien ce que ça va donner.
Pour moi, la COP21, c'est à la fois quelque chose d'indispensable et d'insuffisant. Indispensable parce qu'il faut que tous les États du monde puissent se mettre d'accord sur un traité qui soit contraignant pour les États et qui permette vraiment de limiter le changement climatique. Et insuffisant parce que tous ces chefs d'État, ils sont rien sans les 7 milliards de citoyens du monde qui sont les vrais acteurs de la lutte contre le changement climatique.
La COP21, c'est une réunion en fait où se réunissent tous les chefs d'État qui vont parler justement du réchauffement climatique, de tous les problèmes climatiques dans le monde.
Je sais pas ce que c'est.
Je pense que la COP21, donc, c'est à la fois un rassemblement de chefs d'État pour faire le point sur comment est-ce qu'on peut diminuer un tas de merde. Et c'est aussi un mouvement, je sais plus comment on dit, civil, pour que la communauté civile se mette la pression sur tout ce qu'il faudrait faire pour éviter le réchauffement climatique.
Pour moi, la COP21, c'est l'occasion de parler du climat entre chefs d'État à la base et aussi étendre le débat auprès d'autres populations.
Qu'est-ce que c'est pour vous le réchauffement climatique?
Et le changement climatique, qu'est-ce que ça implique selon toi?
Eh bien, je suis un peu défaitiste là-dessus, mais pour moi, de toute façon, c'est trop tard. On est dans un mode de fonctionnement où l'homme se détruit lui-même en se balançant des bombes dessus, détruit son écosystème, que peut-être que dans 100, 200 ans, on sera tous éteints. Mais en soi, le changement climatique, c'est hyper anthropique. On dit « Oh là là, on est en train de détruire la planète ». Non, c'est faux. On est en train de détruire les écosystèmes qui profitent aux hommes. Si on détruit les écosystèmes, si on détruit la forêt amazonienne, eh ben, y aura un autre type de vie qui prendra le dessus, mais les hommes vont sûrement s'éteindre parce que de toute façon, on aura plus ce qu'il faut pour vivre. Si on se balance des bombes nucléaires partout sur la Terre, sur la tronche, eh ben, les cafards qui sont résistants aux radiations vont se développer et la vie continuera. L'homme sera éteint, mais la vie continuera. Donc pour moi, le réchauffement climatique, c'est une question purement anthropique.
Alors, le changement climatique, ça implique pas mal de choses. Alors, enfin, selon moi, ça implique changement des faunes, des flores locales. Ça implique changement de... Finalement, ça implique pas mal, ouais, aussi au niveau humain, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est impacté, l'être humain est touché, toute forme de vie, en fait, est touchée, les éléments sont redistribués, j'en sais rien, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, ça implique énormément de choses à toutes les échelles, autant à l'échelle quotidienne qu'à l'échelle d'un siècle, et même de plusieurs siècles, et je pourrais pas le définir comme ça en deux minutes, voilà. C'est autant scientifique qu'humain que philosophique. Il y a plein de points de vue, en fait, sur le changement climatique. Voilà.
Ah, pour moi, le réchauffement climatique, c'est donc toutes les saisons qui sont déréglées, qui du coup provoquent des hausses de température ou des baisses de température selon l'endroit où on se trouve.
Moi, ça m'évoque la montée du niveau de la mer, enfin la fonte des glaciers et tout ça. Et donc, du coup, le dérèglement des milieux de vie des animaux, en général.
Seulement des animaux ?
Ouais, nous aussi, on est des animaux.
Ça m'évoque un problème climatique, donc dérèglement, etc., mais qui entraîne un tas de problèmes économiques et de déplacement de population, etc., etc. C'est-à-dire qu'un problème en entraîne un autre, donc... un degré, ça aura une différence. Enfin, ça va entraîner plein de changements dans un endroit du monde, sur le climat, qui fait que ce sera plus habitable, qui fait que des populations vont se déplacer, qui fait que ça va bouleverser l'économie d'un autre lieu, qui fait que ça va bouleverser l'économie d'un autre lieu, etc., etc. Enfin, d'un lieu à un autre, quoi.
Un problème, quelque chose d'inévitable, malheureusement, mais sur lequel on peut faire des efforts. C'est les climats qui vont devenir de plus en plus extrêmes. Le chaud plus chaud, le froid plus froid, il va y avoir des problèmes environnementaux, il va y avoir des problèmes humains, des problèmes effectivement économiques, mais il va y avoir un tas de problèmes.
Dans quelle mesure pensez-vous que votre domaine puisse apporter quelque chose au développement durable ?
En matière d'architecture, en matière d'urbanisme, on peut penser à tous les traitements d'espace, à savoir donner... Une ville qui ait beaucoup plus de verdure dans chaque ville, qu'il y ait un traitement des déchets qui soit géré au maximum. Il y a plein de domaines sur lesquels on peut intervenir, puisqu'on fait toute la programmation de la ville et de ses espaces publics. Bah là, par exemple, on parle de déchets donc dans l'agence où je suis, et donc on a certaines... Enfin, faut respecter certaines normes et tout ça pour réduire le nombre de déchets, pour les stocker dans un seul endroit et après les traiter.
Moi, ça me fait penser plus à l'échelle du bâtiment. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'architecte, c'est faire des bâtiments écologiques, bioclimatiques, peu gourmands en énergie, voire qui peuvent eux-mêmes produire leur propre énergie. On peut penser à des matériaux qui sont recyclés, qui sont recyclables. On peut penser sur le chantier, par exemple sur des chantiers de démolition, au tri des déchets. Enfin voilà, ça passe par ça.
Quand tu dis des bâtiments, je ne sais plus la formulation que tu as utilisée, mais des bâtiments bioclimatiques, qu'est-ce que tu entends par là ?
Ben, des bâtiments qui sont... peu énergivores et qui produisent eux-mêmes de l'énergie et qui profitent de tout ce qui est éléments naturels, enfin le soleil, le vent. Donc voilà, des ressources qui sont inépuisables et en plus, une façon de produire de l'énergie qui ne pollue pas et qui ne contribue pas du coup au réchauffement, quoi.
Du coup, tu penses que l'architecture peut être une réponse, qu'on peut donner une réponse architecturale au problème du réchauffement climatique et du développement durable, que le bâtiment puisse... entre guillemets, donner une solution quant aux consommations d'énergie.
Oui, carrément, parce que l'architecture, elle est présente vraiment partout. Et je pense que le bâtiment, c'est un des secteurs qui consomme le plus en énergie et en matière grise. Donc oui, carrément, carrément.
Oui, on a une responsabilité, on peut y faire quelque chose. Et je pense aussi que notre domaine en tant qu'architecte, c'est, enfin, on n'est pas tout seul dans un projet d'urba ou de bâtiment. Et du coup, il y a un tas d'autres acteurs en jeu aussi. Et justement, les hommes politiques, ils sont là pour donner les grandes lignes. Voilà, parce qu'il y a un tas de choses qui ne dépendent pas de nous. Et donc, voilà.
Parler des hommes politiques comme autre acteur, est-ce que tu en as d'autres en tête qui travaillent avec l'architecte ou l'urbaniste?
Ouais, les ingénieurs, les constructeurs, les entrepreneurs, ceux qui financent, etc. Enfin, c'est évidemment un travail collectif et l'architecte, c'est un parmi tout ça. Quand je pense acteur, je pense plus à des acteurs dans un processus de projet ou de rénovation. Pas acteur en sens apport humain, mais acteur en tant qu'acteur économique, un engrenage dans tout un processus. Je pensais à ça.
Je pense que l'architecture et les architectes peuvent apporter au développement durable, notamment sur les questions de technologie. L'architecte est amené à rencontrer plein de gens qui travaillent dans différents domaines et le développement durable fait partie de ces domaines. Donc au niveau de la veille concernant les nouvelles technologies et effectivement les acteurs.
Quels ont été dans vos études les projets à l'école ou vos projets personnels qui vous ont confronté à la thématique du développement durable ou du...
Est-ce que tu as été impliqué dans des projets spécialement dans la lutte contre le changement climatique ?
Si on part du principe que lutter contre le réchauffement climatique, c'est en parler, mais aussi communiquer là-dessus, j'ai participé déjà aussi à d'autres émissions de radio sur notamment la COP21. Mais en soi, j'ai participé à par exemple, nettoyer les forêts. Est-ce que c'est une question de réchauffement climatique ou juste d'aimer vivre dans un environnement propre ? La limite est quand même assez restreinte.
Pendant longtemps, j'ai pas passé le permis de conduire parce que je considérais que la voiture, c'était l'un des principaux facteurs de gaz à effet de serre. Et puis au bout d'un moment, j'ai été obligée de passer le permis de conduire pour trouver un travail, en fait.
Ben moi, c'est marrant parce que tout au long de mes études, c'est ma 6e année d'études et j'ai jamais été confrontée à cette question. Enfin, j'ai jamais fait un projet ou on m'a jamais demandé de faire un projet. Et moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un projet qui parle de ça. Pour moi, c'est pas une lacune dans mes études, c'est quelque chose qui viendra plus tard, ça sera concret en fait. Et c'est presque une évidence, donc je trouverais même ça peut-être comme... Ça serait une perte de temps d'aborder cette question pendant nos études, parce que de toute façon, elle est présente dans la vie de tous les citoyens. Et je pense que n'importe quel étudiant en architecture, il est un minimum concerné par ce qui se passe autour de lui. Et voilà, il est un minimum engagé, donc je pense que ça se fera naturellement de toute façon. En fait, j'aurais pas le choix, parce que éthiquement, moi, je me laisse pas le choix. Et en plus, j'ai l'impression que le monde où on va... Tout à l'heure, j'ai dit, je sais pas ce que c'est la COP21, parce que ça fait 6 mois que je lis plus les journaux. Mais en réalité, personne peut y échapper, donc surtout pas nous, en fait.
Et t'aurais pas envie, pendant tes études, de t'exercer à intégrer cette notion d'écologie dans la conception architecturale ?
Si, en fait, je dis que je l'ai jamais fait, mais j'avais commencé à faire un concours qui n'a pas abouti. Et en fait, le sujet, c'était faire une petite unité d'habitation, une petite cabane autosuffisante. Et donc, j'avais commencé à réfléchir à des systèmes qui sont en fait super simples, qui vont pas chercher très loin dans la haute technologie, mais c'est juste des petits trucs de tous les jours. Comme par exemple, au lieu d'utiliser une pompe électrique, on peut juste utiliser un système de pédale qui va faire venir l'eau jusqu'à ta douche, ou alors recharger ton ordinateur, pareil, avec un système de vélo, de pédale, enfin des petits gadgets comme ça, en fait. Voilà. Et donc la cabane, elle était équipée de tout ça, en fait.
Moi, dans mes études, j'ai pas vraiment été, j'ai pas vraiment traité avec cette histoire de l'environnement et du développement durable. Enfin, en tout cas, pas d'un point de vue pratique pour tout ce qui est projet. Plus d'un point de vue théorique, on l'a abordé en cours, mais pas dans ce qui est la réalité de la pratique après en agence avec toutes les normes RT 2012 et compagnie. Voilà, plus d'un point de vue théorique et puis notamment sur la notion de développement durable mais au sens large, pas juste développement durable comme un moyen de faire baisser la température, mais développement durable comme un moyen de simplement imaginer une évolution qui n'empêche pas une évolution ultérieure.
Je trouve que c'est une lacune dans les études d'architecture. On n'a pas assez parlé justement de bioclimatique, de climat. À titre personnel, je me suis un peu renseignée sur l'architecture vernaculaire, donc, c'est-à-dire du lieu et puis les habitudes constructives des différents endroits, comment s'adapter au climat. Et il y a déjà des élans et des choses qu'on peut retrouver dans l'architecture traditionnelle.
Alors moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler pendant mes études non plus. On n'a pas du tout parlé en cours, enfin très peu. Je commence à en entendre parler dans mon stage, mais c'est quelque chose qui souvent coûte cher. Et enfin, il y a toute une histoire en urbanisme, en tout cas d'élus, de politique, qui fait que finalement, on applique, mais des fois, ça passe au travers. Après, je pense que je suis en train de me lancer dans un domaine qui est plus de parler aux gens, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, stand-up et tout ça. Et je pense que par là aussi, on peut sensibiliser les gens beaucoup plus facilement aussi et avoir un discours plus large et pour pouvoir toucher plus de monde.
En ce moment, je suis impliquée dans un projet de recyclage des déchets électroniques. Recycler les déchets électroniques, ça permet d'économiser les ressources naturelles, notamment les ressources en terres rares. Les terres rares, c'est des éléments qui sont en concentration très faible dans le sol. Et donc, pour être extrait du sol, ça consomme énormément d'énergie. Et comme les terres rares se trouvent en Chine, ça consomme énormément de charbon. Donc économiser les terres rares, c'est économiser du charbon. C'est lutter contre le changement climatique. Du coup, recycler les déchets électroniques, ça permet d'avoir les terres rares directement en France et en concentration déjà suffisante. Et ça économise donc énormément d'énergie. Un autre projet dont j'aimerais parler, c'est les travaux de recherche d'un chercheur que j'ai rencontré, qui travaille sur la valorisation du CO2. Valoriser le CO2, en fait, ça consiste à faire réagir cette molécule. C'est quelque chose de très compliqué. Les plantes savent le faire par la photosynthèse, mais nous, les hommes, on n'a jamais réussi jusqu'ici, quasiment. Sauf depuis quelques années. Les chercheurs commencent à réussir à faire réagir le CO2, et du coup, ils ont le projet de former à partir de CO2 soit des solvants, soit des molécules qu'on pourrait utiliser pour les médicaments, par exemple, ou encore de synthétiser des carburants. Si on synthétisait du carburant à partir de CO2, ça veut dire que le bilan carbone de ces carburants serait nul. Alors, faire réagir le CO2, ça permettra pas de diminuer de beaucoup la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais c'est néanmoins une alternative au pétrole et ça peut faire partie, ça peut être une solution en plus pour limiter le réchauffement climatique. Évidemment, c'est la réduction des émissions de CO2 qui passe avant tout. La deuxième solution, quand le CO2 est déjà émis, c'est le stocker sous terre. Et la troisième solution serait donc de le faire réagir.
Comment pourrait-on, à votre avis, lutter de manière simple contre le réchauffement climatique ?
On pourrait ralentir la décroissance, c'est un mot qui existe, ça, non ? Hein, je ne suis pas très calée en tout ça, mais c'est un truc qui me parle. Mon frère, il habite dans une vieille baraque qui retape et... Il a 4 chèvres, 6 poules et un jardin. Et je dis pas qu'on doit tous revenir à ça, mais c'est une façon. Enfin, je veux dire, peut-être qu'un jour une mouche me piquera et je le ferai à mon tour, et peut-être plein d'autres gens se rendront compte que, en fait, au lieu d'aller à Franprix acheter du surimi, on peut qui a été importé du Japon et qui a été transformé dans des usines qui consomment je sais pas combien, et qui ensuite a été transporté et qui ensuite a été stocké, enfin bref. Tout ça, en fait, c'est plein d'intermédiaires qui font que, voilà, pour faire des raccourcis, la planète se réchauffe. Donc, restons chez nous. Non, je déconne, il faut voyager, mais restons. Il faut juste exploiter les ressources qu'il y a près de chez nous, les exploiter de façon raisonnable, bien sûr. Puis voilà, ça passe par des trucs simples comme ça, pour moi.
Bah, je pense qu'il y a plein de choses simples dans notre quotidien, entre pas prendre des douches trop longues, faire attention à ce qu'on achète, d'où viennent nos vêtements, d'où vient notre bouffe, etc. Enfin, plein de choses assez simples. Mais après, je pense que toutes ces choses simples, encore une fois, elles sont, enfin, c'est assez difficile si on n'est pas sensibilisé à un niveau assez important, et je pense encore une fois aux hommes politiques, enfin, je pense que ça revient souvent à eux, pour nous engager à ça. La politique peut beaucoup de choses, donc que ça doit venir d'en haut, de l'État, mais qui sont pas juste une sensibilisation, mais aussi une organisation réelle de nos modes de consommation, etc. Sans être dans un truc totalitaire, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais à un moment donné, si on ne sait pas partager l'énergie, il faut nous forcer à la partager, quoi.
Je pense qu'on pourrait lutter de manière simple contre le réchauffement en changeant d'échelle quand on pense. Se dire qu'il faut voir plus loin que notre vie au niveau temporel. Se dire qu'on ne voit pas que dans 5, 10, 50 ans, mais qu'il va y avoir des générations derrière nous. Et aussi penser à une autre échelle au niveau du monde. J'ai pu entendre du « Oh, mais un degré de plus à Paris, on dit pas non ». Oui, mais pense aux pingouins, pense aux ours polaires, les gars. Voilà.
Finalement, on le sait tout ça, hein, tout ce qui vient d'être dit, mais qu'on n'a pas l'impression qu'à notre propre échelle, juste en prenant une douche, 2 secondes de moins, ça puisse changer quoi que ce soit. Et surtout, comme tout va très vite ici et tout ça, finalement, on n'est pas amené à réfléchir là-dessus. Parce qu'on ne, enfin, on nous l'impose pas, on ne nous le propose pas finalement, pas assez. Et donc voilà, finalement, le temps passe, on y pense, on ne le fait pas. Et...
Alors moi, je ne fais pas énormément de choses dans ma vie quotidienne pour lutter contre le changement climatique. Bon, mis à part que voilà, je trie mes déchets, j'essaie de prendre très peu de bains, bon voilà, je prends pas trop, enfin j'ai pas de voiture parce que j'en vois pas l'intérêt à mon échelle, et puis d'abord j'ai pas l'argent, mais voilà, bon, ça c'est la deuxième cause, c'est que j'ai pas envie de polluer en plus toute seule dans ma petite voiture, mais en fait, dans la vie de tous les jours, bah, j'essaye en fait de réduire ma consommation, c'est-à-dire ne pas être dans la surconsommation des choses, c'est-à-dire que la surconsommation, pour moi, c'est une des pires... une des grosses choses qui fait que le climat que le changement climatique est là, c'est-à-dire que ça, en fait, ça encourage, et moi à mon échelle j'essaye de ne pas trop consommer, j'essaye de pas manger beaucoup de viande, j'essaye de m'informer tout simplement, en fait, et après dès que je peux faire quelque chose je le fais. Après les marches, tout ça, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est pas ce qui va concrètement changer les choses. Après, j'essaye de réfléchir, et si plus tard je peux faire quelque chose, et si même actuellement je peux faire quelque chose de concret, bien sûr je le ferai.
Qu'est-ce qui vous indigne le plus vis-à-vis du climat ou de l'environnement en général ?
C'est l'hypocrisie générale du monde, notamment quand on dit que les gens disent « oui, le réchauffement climatique c'est mal, oh bon, bah, je dois aller à la boulangerie qui est à 500 mètres, je vais prendre ma voiture ». Enfin, et même au niveau des politiciens, quand ils disent oui, il faut limiter le réchauffement à 2 degrés, et qu'en même temps j'ai l'impression qu'ils vont rien faire forcément. Ils financent quand même les grands groupes comme Total, EDF, qui, malgré ce qu'ils disent, et même s'ils font des efforts pour avoir bonne figure, ils polluent énormément, et qui financent pas du tout tout ce qui est recherche sur les énergies renouvelables. Quand on voit qu'un projet de recherche, quand il y a marqué dedans climat, changement climatique, est beaucoup plus financé que d'autres qui seront aussi indispensables. Je trouve que c'est très hypocrite.
Bah, moi, je sais pas si je pourrais me dire indignée. Je pense que je suis quand même assez indignée, oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup, et puis finalement, on continue. Alors peut-être que... Enfin, on continue notre mode de vie actuel, on voit très bien que le climat change, on voit très bien qu'on peut pas changer ça du jour au lendemain, on est plus de 7 milliards, enfin, c'est pas comme ça, c'est pas nous... Enfin, on peut pas dire qu'on va changer comme ça du jour au lendemain, mais par contre, je trouve qu'il y a très peu de gens qui ont les moyens de changer dans la vie de tous les jours par des petits actes, et en fait qui font en sorte de consommer toujours autant, qui font en sorte de... Voilà, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la viande, mais de manger toujours beaucoup plus de viande, d'être un petit peu dans cette surconsommation, voilà, autant d'un point de vue énergétique, globalement, je trouve ça... Moi, je suis pas vraiment indignée, mais ça m'agace un peu, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Et en fait, on s'auto-agace, c'est-à-dire qu'on culpabilise, et puis... Enfin, on culpabilise pour nous-mêmes et pour les autres, en fait. C'est-à-dire que... Je sais pas si on est touché ou qu'on est trop touché pour justement être sensibilisé à ça, mais en fait, il y a une grosse culpabilité derrière tout ça, je pense.
Ce qui me passe par la tête, c'est des choses assez simples qu'on fait tous les jours où on se rend pas compte. Enfin, je reprends un peu le même exemple que tout à l'heure, les trajets en avion, etc. Enfin, voilà, il y a un tas de choses qu'on fait, mais je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir.
Non, moi, ce qui m'indigne, c'est vraiment très bête, mais c'est les gens qui jettent leurs déchets sur le sol alors qu'il y a une poubelle à 4 mètres. Enfin, c'est débile, sous prétexte qu'il y a des gens payés pour ramasser les déchets. Mais au final, ils le feraient en ville, donc finalement, il y a des gens qui ramassent les déchets et qui sont payés pour ça. Mais à la campagne, ils le feront pareil, et ils le font pareil. Et là, ça, c'est un petit impact, mais si tout le monde le fait, ça devient un gros impact, en fait, sur la planète.
Ce qui m'indigne au niveau du climat et de l'environnement, c'est les gens et les gentes qui s'en foutent, qui sont égoïstes, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ceux qui tournent à la dérision, les gens qui s'engagent, et l'engagement en général. Voilà, les lâches, en fait.
Ce qui m'indigne le plus dans nos modes de vie actuels, c'est l'importance des poids lourds sur nos routes. Si on arrivait à transporter davantage de marchandises et d'hommes avec les trains, on rejetterait beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de particules fines et beaucoup moins d'oxyde d'azote. Autrement dit, on lutterait à la fois contre le changement climatique et contre la pollution de l'air. Et pourtant, dans la loi sur la transition énergétique, Macron influence le système dans l'autre sens. Il veut remplacer des lignes de train par des cars. Et pour moi, c'est vraiment stupide de faire ça.
Si je vous dis architecture et durable.
Architecture et durable, que les architectes puissent créer des bâtiments qui puissent créer des énergies eux-mêmes, de créer leur propre énergie. Et aussi, je pensais, il y a un quartier comme ça, je crois que c'est à Marseille, il y a plusieurs bâtiments, en fait, ils se sont mutualisés. Et ensemble, en fait, ils produisent leur énergie. Et du coup, ça permet aussi à plus grande échelle que ça marche, parce qu'un seul bâtiment, finalement, ça ne va pas changer tout un quartier. Et un seul bâtiment ne peut pas produire tout seul tout un tas d'énergie. Et peut-être qu'en se mutualisant et en réunissant tout un nombre d'immeubles, on puisse faire un quartier qui produit son énergie, et pour les logements aussi, puisque finalement, le thème actuel, c'est la mixité positive et tout ça. Et donc, c'est de réunir tout un tas de... Donc, les logements, les bureaux, les commerces. Et tous ensemble peuvent développer ces énergies et être beaucoup plus efficaces. C'est de mettre toutes les énergies en commun pour les produire ensemble et former tout un réseau.
Moi, je pense à architecture pérenne, en opposition à architecture jetable ou produits de consommation en général. Ce que j'entends par là, c'est on pourrait construire des choses qui dureront plus longtemps, et au lieu de faire 3 bâtiments sur 100 ans, on peut en faire un qui durera 100 ans, et je pense qu'on gaspillera moins d'énergie, et puis ça rentre aussi dans la logique, comme disait Camille tout à l'heure, qu'on pense pas pour un an, 5 ans ou 50 ans, mais qu'il faut penser au-delà. Donc voilà, pour moi, l'architecture, ça passe par là aussi. C'est que on produit quelque chose qui va durer dans le temps et qui est, c'est respectueux aujourd'hui, et ça devrait l'être dans 100 ans, dans 1000 ans ou plus.
Ok, très bien. Bah, je vous remercie. C'était super sympa. À bientôt.
Salut.
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 Merci beaucoup pour cette interview.
Bon, bah, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.